À émission exceptionnelle, générique exceptionnel pour ce feuilleton hebdomadaire autour de vous, Patrice Lecomte, bonjour.
Bonjour.
En France, on aime caser les gens, comiques, dramatiques, tragiques, intello. Chaque livre, film, peinture doivent se ressembler ou avoir une filiation. Or, chacun de vos films est un événement, bien que la critique ne s'y retrouve pas. Elle voulait peut-être que la veuve de Saint-Pierre fasse poète-poète. Vous êtes inclassable. Je rappelle que 14 de vos 30 films ont dépassé le million de spectateurs. C'est immense. Réalisateur exigeant avec ce chef-d'œuvre qu'est La fille sur le pont, fidèle à vos comédiens, Jean Rochefort, Michel Blanc, Daniel Auteuil, etc. Homme discret, humble et simple, vous veillez à l'ambiance sur les plateaux, qu'elle soit conviviale ou joyeuse et concentrée. Alors revenons, si vous le voulez bien, sur votre œuvre, votre carrière, avec Marie-Noëlle Tranchant, Bernard Medioni et Dominique Borne. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Christophe.
Cher Christophe. Ben, bonjour à tous les trois, en effet, tous les quatre, puisque si je ne vous dis pas bonjour à vous, ça ne va pas.
Ça va pas.
En tout cas, merci pour cette introduction. Moi, j'ai, à propos de ce côté électron libre, il n'en fait qu'à sa tête et refuse de rentrer dans des boîtes précises, je voudrais que sur les signes du zodiaque, on invente un nouveau signe qui serait le mien, qui serait le signe du caméléon. Je serais ravi de ça. Mais je cherche, mais ça n'existe pas.
Mais caméléon, tendance vierge ?
Tendance quoi ? Non, tendance caméléon.
Caméléon.
Oui, c'est-à-dire de pouvoir prendre plusieurs couleurs, plusieurs teintes, plusieurs...
Mais c'est ça qui est merveilleux. Alors vous êtes né en 1947 et vous êtes tombé dans la BD.
Je suis tombé dans la BD, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, parce que avec mon frère aîné, nos parents nous avaient abonnés à Spirou et à Tintin. Et donc on échangeait, et toutes les semaines, Spirou et Tintin arrivaient à la maison et on dévorait... Tous ces héros de bande dessinée qui m'ont charmé, qui ont bercé mon enfance et puis mon adolescence. Puis après est arrivé Pilote, qui était plus amusant, un peu plus ado, oui. Moins enfantin. Et j'adorais Pilote jusqu'au jour où j'ai fini par travailler à Pilote et à faire de la bande dessinée à Pilote pendant 5 ans, mais avec l'idée derrière la tête que ça n'était qu'une parenthèse, enchantée d'ailleurs, mais que ça n'était qu'une parenthèse et que moi, mon seul rêve, aucun rêve n'est impossible. Mon seul vrai rêve, c'était de faire des films.
Et vous aviez travaillé avec Goscinny, alors ?
Ah oui. Tous les lundis, il y avait, je ne sais pas si on appelle ça conseil de rédaction ou quoi, ou qu'est-ce, mais enfin, il y avait Goscinny qui présidait, et autour de la grande table, il y avait, mais vraiment, il y avait un casting d'auteurs de bande dessinée de dingue. C'est-à-dire que, juste en vitesse, il y avait Gottlieb, Bretéché, Mandrika, Giraud, GB, Rezer, puis j'en oublie des paquets.
Et vous avez 20 ans.
Moi, j'étais pas, j'avais un petit peu plus de 20 ans, mais pas beaucoup plus, oui, ouais. En effet.
Ouais. Vous arrivez en 70, là-bas, sauf erreur de ma part.
70. Oui, vous avez raison, j'ai fait de la bande dessinée pendant 5 ans, entre 70 et 75, et avec cette idée que j'aurais pu me tatouer sur l'avant-bras gauche, le jour où je signe le contrat de mon premier film, j'arrête la bande dessinée, parce qu'on peut pas tout faire non plus.
Alors, vous êtes, donc, quand vous préparez votre premier film... Vous dessinez un storyboard ?
Non, surtout pas.
Alors, justement.
Ah non, jamais.
Entre la BD et le cinéma, vous passez pas du tout par le storyboard.
Non, du tout. Et si j'étais vraiment vulgaire, je dirais même plutôt crevé. Non, j'ai horreur de.
Ah oui.
J'ai horreur du concept du storyboard, qui est une forme de film immobile. J'aime pas ça du tout. Et j'aime d'autant moins ça que depuis Tandem. Ça me brûlait, j'avais trop envie. Mais depuis Tandem, je cadre moi-même mes films. Oui, donc, à quoi bon dessiner les images que j'ai en tête pour que je les regarde et que je dise « Ah oui, c'est bien ce que j'ai en tête ». Non, c'est absurde. Donc, j'ai aucune envie. Le storyboard est un principe qui m'insupporte, moi.
Donc, premier film, évidemment, tiré de la bande dessinée, Gottlieb, l'univers de Gottlieb. Ouais. Les WC étaient fermés de l'intérieur, avec Coluche, Jean Rochefort, entre autres. Et ça marche immédiatement bien.
Non, très mal. Non.
Mais racontez.
Une catastrophe.
Ah bon,
le tournage a été, non pas une catastrophe, mais a été très douloureux. Ouais. Tellement douloureux que je me suis dit, bon, je fais ce film, parce qu'on ne peut pas arrêter un film en cours. Ça ne se fait pas, même si on souffre. Je termine ce film, et après, j'ouvre une mercerie à la Bastille, ou quelque chose comme, enfin, un truc autre, quoi. Et c'est un peu comme si j'avais rêvé à côté de la plaque. Enfin, c'est ce que je pensais, mais bon.
Eh bien, les WC étaient tournés de l'intérieur, étaient fermés de l'intérieur, pardon, on écoute la bande-annonce, et ensuite, je vous laisse la parole.
Gaumont Distribution est fier de vous présenter la plus formidable enquête policière de tous les temps. Les WC étaient fermés de l'intérieur.
le fameux commissaire Pichard, un des patrons les plus prestigieux de la PJ, flanqué de son fidèle adjoint, l'inspecteur Charbonnier, va se trouver confronté à l'énigme la plus redoutée de la gente policière, le terrible problème de la chambre close. En effet, un homme est trouvé mort dans ses WC. Et tout porte à croire qu'il a été assassiné. Or, ses WC étaient fermés de l'intérieur. C'est d'ailleurs ce qui donne le titre de cette bouleversante enquête. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Une enquête qui vous catapultera aux quatre coins du monde. Paris, Marseille, Étretat, rue Gabriel Péri. Des dialogues percutants.
Vous ?
Moi.
Des répliques inédites.
Bon sang, mais c'est bien sûr.
Un érotisme insoutenable.
Monsieur ?
De l'amour.
Patron ? Oui, si vous saviez comme je vous aime.
Des indices plutôt maigres.
Ouais, plutôt maigre comme indice.
Une angoisse intolérable.
Patron, j'ai peur.
Une violence. Des cascades à vous couper le souffle. Des gadgets encore jamais vus à l'écran. Des images poétiques d'une ahurissante beauté.
Vous trouvez pas que la route est un long ruban qui défile ?
De l'amitié virile.
Viens, Charbonnier.
Les WC étaient fermés de l'intérieur. La plus formidable enquête policière de tous les temps que le commissaire Pichard, flanqué de son brio et de son adjoint habituel, va résoudre avant que le mot fin n'apparaisse sur l'écran. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Votre prochain suspense.
J'ai jamais vu une enquête aussi con.
Mais je crois que votre prochain spectacle et tout ça, après il y avait un plan sur Rochefort qui disait j'ai jamais vu une enquête aussi con. Je crois que c'était ça.
On l'a entendu.
Ah, on l'a entendu, pardon. Très bien. Mais je m'étais régalé à concevoir ce film annonce avec cette voix qui faisait les actualités de l'ancien temps. Le président Paul Doumer descend de ça. Enfin, c'est merveilleux.
C'est vous qui concevez vos bandes annonces ?
Non, c'est celle-là, oui.
Celle-là, oui.
D'autres, oui.
Parce qu'on va en écouter beaucoup. Bernard Médioni.
Oui, moi, j'ai deux questions en une. D'abord, on pourrait penser que vous êtes passé de la bande dessinée directement au long métrage. Mais entre les deux, vous allez me confirmer qu'il y a bien un court métrage qui s'appelle La Famille Heureuse, qui date de 73 et qui est donc 2 ans avant la sortie des WC.
Oui, alors j'ai fait beaucoup de courts-métrages réalisés avec des bouts de ficelle, des copains quand on était en province, à Tours. Mon père avait une caméra pour filmer les enfants à la plage. Pour faire des home-made movies, comme on dit en français. Et il était...
Bon, Super 8
Non, Super 8 n'était pas encore inventé à l'époque. Donc c'était 8, et puis après il est passé au 16 mm, et il me prêtait aussi sa caméra 16. Il était vraiment très tolérant, il savait que j'en prendrais grand soin. Et donc j'ai pu, avec pas mal de petits films, c'est pas forcément péjoratif, mais c'est pas forcément glorieux, j'ai pu m'exprimer par l'image... en faisant des trucs dont tous les négatifs ont été perdus, et je pense que c'est tant mieux.
Et vous avez travaillé avec Marcel Gottlieb sur ce film, et il dit qu'au départ, vous étiez parti sur un court-métrage, là encore, mais que vous avez suivi le sens contraire des réalisateurs ordinaires qui souvent partent sur un long-métrage et n'ont pas l'argent voulu, et se rabattent sur un court-métrage. Et il semble que là, vous lui ayez dit « Ah, mais là, on a une idée, on va essayer de la mener à son terme et en faire un long-métrage. » Et lui, vous aurait apporté ces deux personnages de Bougrel et Charolles, qui étaient les deux personnages qu'on a beaucoup vus dans Rubrique à Braque, qui étaient deux enquêteurs.
Oui, c'est vrai. On avait... Quand j'ai connu Gottlieb, on était devenus assez potes, on allait au cinéma ensemble, on aimait les mêmes choses, on riait des mêmes choses, ça c'est important. Et on s'était dit, tiens, ce serait marrant d'écrire un film quand même, oui, bien sûr. Et donc on est parti là-dessus, mais on ne savait pas si ce serait un court-métrage, un long-métrage, un moyen-métrage, on se disait, bon, on va écrire. Et en fait, je me souviendrai toujours qu'on écrivait, donc pour Bougré et Charolles, qui s'appelle, il s'appelle comment dans le film, je ne sais plus, enfin, Charbonnier et Pichard, je crois, enfin, Charbon, c'est le surnom. Et on se disait, ben voilà, il y a un type qui est retrouvé mort dans ses WC, les WC étaient fermés à l'intérieur, par exemple, et on va aller voir un premier témoin de quelqu'un qui pourrait nous donner un indice, et puis on va aller en voir un autre, puis on va en voir un autre, puis quand ça fera 1h30, ben on verra le dernier, puis le film sera bouclé. Mais c'est, alors, anecdote, juste pour vous faire sourire, à propos du titre.
Oui.
Le titre, c'est « Les WC étaient fermés de l'intérieur ». Le film a été produit par la Gaumont, la vieille Gaumont, avec Alain Poiret, qui était qui d'un seul coup était ravi parce que Coluche était devenu une grosse vedette, Olympia, machin, etc. Donc tout le monde voulait faire un film avec Coluche, et lui a été absolument parfait parce qu'il a dit non, mais moi, il y a un mec qui est venu me trouver quand j'étais pas connu, c'est le Comte, donc je ferai d'abord son film et après on verra. Donc Alain Poiret me dit, bah écoutez, très bien, signons le contrat. Bon, le contrat a été signé en une semaine, une espèce de conte de fées. Mais c'était pas du tout l'humour d'Alain Poiret, franchement. Et alors, il l'avait laissé passer le scénario sans faire de remarques, mais il a dit, il y a un truc qui passe pas, c'est le titre. Parce que à l'époque, initialement, le film s'appelait « Les WC sont fermés de l'intérieur ». Alors, je lui ai fourni une liste stupide de titres alternatifs qui étaient grotesques, et puis il s'est laissé fléchir, et il m'a dit un jour dans son bureau, « Écoutez, Patrice, bon, d'accord, mais est-ce que ça pourrait pas s'appeler plutôt « Les WC » était fermé l'intérieur, j'ai l'impression de voir la cuvette. Alors que si c'est les WC étaient fermés l'intérieur, je la vois moins.
Belle
d'accord,
marquise.
D'accord, Alain. Très bien. Allons-y.
Dominique, vous avez une question?
Oui, moi, c'est une question beaucoup plus globale. Sur vos 34 films long métrage, il y a une telle diversité. Je me suis demandé la part d'initiative personnelle où vous allez trouver un distributeur, un producteur, et la part de commande, s'il y en a eu.
Alors, le terme « commande » est souvent très péjoratif. Oui. C'est un film de commande. Alors,
mettons-le entre guillemets.
Mettez des guillemets à la radio. Mais alors, ce qui est vrai, c'est qu'il m'est arrivé plusieurs fois de faire des films dont on m'a suggéré l'idée. Je veux dire, là, par exemple, quand j'ai fait Monsieur Hir, moi, je connaissais le film de Duvivier, Panique, qui est un film formidable. De toute façon, j'ai une grande passion pour Duvivier, bref. Et j'avais... Je disais à qui voulait entendre, mais comme une espèce de fantaisie. Je disais, un jour, je ferai un remake de Panique, parce que j'adore ce film. Et c'est un producteur très avisé, Philippe Carcassonne, qui m'a dit, mais tu sais, Panique, ce film que tu aimes tant, c'est adapté d'un Simenon. Et moi, je n'avais pas lu le générique, enfin, je ne sais même pas. Alors que j'adore
Simenon. Vous aviez lu Simenon, tout de même.
Bien sûr, et je continue. Et je dis, bah, c'est étonnant. Il me dit, écoute, lis le bouquin. Qui s'appelle Les fiançailles de Monsieur Hir, parce que plutôt que de faire un remake de Panique, tu peux sans doute, à mon avis, faire une autre adaptation. Donc là, voilà l'exemple même d'un film que j'ai adoré faire, adoré adapter. Enfin, la question
n'est
pas là.
On va y revenir dans la troisième.
Mais c'est un film qu'un producteur, les producteurs ne sont pas tous des ânes, hein, loin de là, un producteur m'a suggéré. Donc ce n'est pas un film de commande, mais c'est un film, les producteurs murmurent à l'oreille des réalisateurs.
Mais des suggestions, il y en a eu beaucoup.
Des suggestions, oui, il y en a eu pas mal. Il y a des gens qui m'ont dit, tiens, j'ai dans ma poche un livre qui pourrait t'intéresser, ou bien... Non, mais moi, j'ai pas la science infuse, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui me plaît, c'est d'arriver, quand quelqu'un me donne une pichenette à mon inspiration, appelons ça comme ça, ce qui me plaît, c'est quand à l'arrivée, les films m'appartiennent, me ressemblent, ne sont pas étrangers à moi.
Qu'est-ce qui déclenche l'envie?
L'envie d'avoir envie, bah c'est Johnny, forcément. non, mais l'envie, c'est de vivre une journée, une nuit, une semaine, un mois, 6 mois, avec... une idée, et se dire cette idée n'est pas en train de se faner. L'envie ne se fane pas.
Ouais.
L'envie est toujours là, et même elle s'enrichit. Et donc on y va, quoi.
Ouais. C'est-à-dire que vous partez en fait sur une forme d'évidence.
Oui, il faut ça semble très prétentieux, mais non. Ça l'est pas. Mais il faut que le film me plaise à moi. Il faut que le projet me plaise. Il faut que si c'était le film d'un autre, j'y aille.
Oui, mais vous disiez, j'ai un bouquin dans la poche. Vous lisez ce bouquin et à quel moment, hop, il y a le déclenchement en disant, mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça.
Ben, c'est un truc qui ne se commande pas. C'est un truc qui arrive. C'est comme... vous ne pouvez pas prévoir de tomber amoureux, par exemple, et puis ça vous arrive, de temps en temps. Et là, vous ne pouvez pas prévoir que ce livre va rentrer en écho. C'est parce que adapter un livre, par exemple, c'est le fait de se sentir bien avec un univers que vous n'avez pas inventé, mais que vous avez plaisir à partager.
Marie-Noëlle.
Moi, j'aimerais revenir sur votre premier film personnel. Vous avez dit que Tandem était votre premier film personnel à un moment où vous êtes dans une dynamique de succès. Il y a eu des comédies extraordinaires, des Bronzés, et il y a eu Les Spécialistes, films d'action. Donc, vous êtes vraiment dans une dynamique de succès commercial, public. Et ce premier film personnel parle de la fin du succès, d'un vieil animateur rouillé, de tournée de province un peu minable. Lui va être mis sur la touche et il n'est retenu que par l'amitié, ce qui est un bel élastique pour vous retenir au bord de la falaise. Et donc il y a quand même une mélancolie. À coup, vous pensiez déjà à la fin du succès?
Non, je ne pensais pas à la fin du succès, mais au contraire, c'est bien parce que les films que j'ai fait avant, qu'ils soient les comédies ou les spécialistes, qui étaient un film d'action et d'aventure, c'est bien parce que ces films-là ont été des succès importants. Que je me suis dit, après de tels succès, je peux me payer le petit culot, la petite liberté, le petit luxe de faire ce film tandem que j'avais écrit quelques années auparavant. Mais que
j'avais. Lucien Jeunesse.
Pardon.
En pensant à Lucien Jeunesse.
Bien sûr, mais le jeu des mille francs, je connaissais par cœur. En province, on déjeunait et on écoutait le jeu des mille francs.
Cher ami, bonjour.
Oui, bien sûr. Et à demain, si vous voulez bien.
Ouais.
Et donc ce film que je traînais en moi, dont l'envie était toujours là, de faire tandem, je me suis dit, après ces succès-là, je peux faire tandem. Ce qui n'a pas été simple, parce que justement. Quand vous êtes dans une espèce de mouvement de succès, on a envie que vous continuiez, que vous fassiez les spécialistes de fond du ski ou je sais pas quoi, enfin bon, un truc comme ça.
Mais
envie de faire tandem.
Mais oui, mais justement, un peu, pourquoi? Parce qu'il y a cette mélancolie ancrée en vous,
c'est un peu comme les montagnes, c'est bien connu des cruciverbistes. Vous avez le côté au soleil, c'est l'Adret, puis le côté à l'ombre, c'est l'Ubac. Et on a tous des zones d'ombre, des espèces de... Non pas de tourments, moi je ne suis pas quelqu'un de tourmenté, mais il y a des choses moins lumineuses, quoi, plus désenchantées. Et Tandem est le reflet de ça, oui. Alors Tandem, je ne sais pas si c'est le premier film personnel, mais c'est celui qui a entrebâillé la porte de d'autres films qui me ressemblaient davantage que ce que j'avais fait avant.
Alors, dans les deux faces, avec la part d'ombre et la part de lumière, il y a le retour tardif au dessin avec un film d'animation, Le Magasin des Suicidés, d'après Jean Tellet. C'était en 2012. On écoute la bande-annonce.
Imaginez une ville où la vie est devenue si triste que les gens n'ont plus goût à rien. Pourtant, au milieu de ce monde désespéré, il existe une oasis inattendue, le magasin des suicides. Chez Mishima, Lucrèce et leurs enfants, on trouve tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le grand saut. La petite entreprise familiale prospère dans la joie sinistre et l'humeur morbide jusqu'au jour abominable où naît le petit Alan. La honte de la famille, il sourit. Pire, il est la joie de vivre incarnée. Le verre est dans le fruit. Après le mari de la coiffeuse, ridicule, et la fille sur le pont, Patrice Lecomte réalise son premier film d'animation avec Le Magasin des Suicides. Un film à vous faire perdre la tête.
Ça aussi, c'est une bande-annonce que vous avez réalisée vous-même.
Oui, le texte, on l'a écrit nous-mêmes.
Sans votre soin.
Juste pour revenir une seconde et demie sur ce qu'on se disait, il y a 3 secondes 30, le fait que Tandem soit un film plus personnel que les autres ne me fait en aucun cas renier ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que les comédies, même les plus populaires, comme Les Bronzés et tout ça, c'est des films qui ont été très importants pour moi, c'est des films que j'ai aimé faire, que leur succès, leur côté inusable m'enchante. Viens chez moi, j'habite une copine, c'est un film que je... Pareil. Bon, alors, la dernière comédie qui s'appelait Circuler, rien à voir, ça, c'est pas formidable. Il y a quelques films comme ça sur les 30 qu'on préférerait gommer de sa filmographie.
Ma femme s'appelle Revient, par exemple.
C'est un peu entre les deux, quoi. Mais il y a des... Il y a des moments pas trop mal, il y a les dialogues de Michel Blanc, enfin bon, il y a des choses, ça va encore. Mais quand j'ai fait Les Spécialistes, qui était un film, c'est ça le premier film vraiment différent de ce que je faisais avant, c'est Christian Fechner, qui est un producteur que j'adorais, et avec qui je m'entendais très bien, puis la confiance circulait entre nous, enfin c'était parfait. C'est lui qui m'a dit, mais Patrice, vous comptez faire des comédies toute votre vie ? Alors, je ne m'étais jamais posé la question. Je me disais oui, parce que c'est ma tournure d'esprit. À Pilote, pour les bandes dessinées, je ne faisais pas des trucs sérieux du tout. Puis j'ai toujours aimé faire marrer les gens. Je suis moi-même assez rieur. Et je lui ai dit, mais c'est curieux que vous me posiez cette question. Mais je ne sais pas, oui, pourquoi? Et c'est là qu'il m'a dit, écoutez, voilà, de suggestion de producteur, pas film de commande, enfin, appelez ça comme vous voudrez. Lanvin, Giraudot, Côte d'Azur, le casse du siècle.
Formidable.
J'ai dit, bah d'accord.
Bah oui.
Bah, bien sûr.
Mais il n'y a aucun film à renier, parce que...
Ah bah non.
Et en plus, ce que je trouve formidable, c'est que ils sont tellement différents.
Oui.
Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'à chaque fois, on est surpris. Et on est surpris même à l'intérieur du film par votre propre regard. On dit, mais il ne nous avait pas habitués à ça. Il ne nous habitue à rien, finalement.
Oui, mais c'est parce que je n'arrive pas à m'habituer à quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est-à-dire que moi-même, je ne m'habitue pas. Parce que si on s'habitue, c'est le début du ronron. et ça semble un peu... c'est comme de la forfanterie, mais j'adore faire des choses que je ne suis pas sûr de savoir faire. Parce que ça me pique les fesses. Et je me dis, oh attention, faut pas s'endormir.
Revenons sur le magasin des suicidés, puisque...
Des suicides, pardon.
Puisque
non, c'est pas grave.
On termine l'émission avec cet enregistrement-là. Vous avez mis la main à la pâte pour le dessin ?
Non, très peu. Parce que si j'avais dû dessiner ce film, c'est pas 4 ans que ça aurait pris, mais une quarantaine d'années, à mon avis. Et on serait pas là pour en parler. La seule chose, c'est qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Et par exemple... je disais à l'équipe des dessinateurs, enfin les gens épatants avec lesquels j'ai travaillé sur ce film, je leur disais, j'aimerais que les voitures ne soient pas des voitures réalistes, je voudrais des voitures pantoufles. Mmh. Alors ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, des voitures pantoufles. Moi je voyais très bien ce que ça voulait dire, donc j'aurais dessiné, maladroitement, j'aurais dessiné une voiture pantoufle. Je dis, ah, c'est ça ce que tu appelles une voiture pantoufle. Et comme ça, dans le film, les voitures sont... Donc, de savoir un peu dessiner m'a aidé à communiquer des trucs.
C'est plus facile de diriger des dessinateurs plutôt que des comédiens ?
Ben, ça n'empêche pas, surtout. De diriger des dessinateurs, dessiner des dirigeurs.
Oui.
Pauvre garçon.
Mais pourquoi pas ?
Oui, oui, bien sûr. Mais de diriger des dessinateurs, c'est agréable, bien sûr, mais c'est très différent. C'est-à-dire qu'ils ont, eux, leur talent. On les met sur les bonnes voies, sur les bonnes pistes, et puis ils inventent, et ils ont une liberté de création folle. Et de diriger les comédiens pour un film d'animation, ça, c'est assez marrant, parce que ça a tout à voir et rien à voir.
Mais dans le magasin des suicides, il y a quelque part une sorte de faux macabre, comme dans Les Noces funèbres de Tim Burton, qui est antérieur. Est-ce que cette parenté, vous l'avez souhaitée, voulue, est-elle inconsciente ou pas du tout ?
Alors, ce qui s'est passé, vous avez raison de citer ce grand cinéaste, Tim Burton, pour qui j'ai une grande admiration, le bouquin de Tellet, je le connaissais.
Jean Tellet, oui.
Jean Tellet. Parti. Il y en a tellement qui sont plus là. C'est affreux. Ne parlons pas de ça, sinon on va sortir nos Kleenex. Et le bouquin, je le connaissais, je l'avais lu, je l'avais aimé parce que j'aimais beaucoup ce qu'écrivait Jean Tellet. Et un producteur me l'avait proposé en disant, et je dis, non, on ne peut pas faire ça. Soit on est Tim Burton, justement, et on peut tourner ce film... En prise de vue réelle, bien sûr, je ne suis pas Tim Burton, excusez-moi, je regrette. Et plus tard, un autre producteur vient me trouver en me disant qu'il a racheté les droits de... Et je dis non, mais le magasin des suicides, j'ai déjà dit non merci, je ne peux pas... Et c'est là qu'il me coupe la parole et qu'il me dit non, attendez, je n'ai pas tout dit, pour moi c'est un film d'animation. Et là, d'un seul coup, c'est ouvert un champ du possible... formidable, parce qu'en animation, on peut être très noir, affreux, sinistre, c'est pas des vrais gens. D'accord. Donc, on peut y aller fort dans l'humour noir. Et j'ai repensé aux Noces funèbres, évidemment. J'ai repensé surtout à ce chef-d'œuvre absolu qui est Les 30 Noël de Monsieur Jack.
Oui.
Et moi, je voulais vraiment faire un film qui soit d'un humour noir, très noir, mais qui soit très musical aussi.
D'un humour noir, très noir, mais... avec une subversion de la noirceur, finalement, oui. Par la joie de vivre. C'est ça qui est étonnant.
Ben, c'est qu'il y a un petit bonhomme, le dernier enfant de la famille Tuvache, qui est la joie de vivre incarnée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre pourquoi...
Et c'est l'horreur.
Oui, pourquoi les adultes sont-ils si tristes, quoi. Et le fait est que, moi, alors, très souvent, dans les tas de situations de la vie, et pas que dans le métro... J'ai l'impression d'être le petit Tuvache, non pas parce que je suis plus joyeux que tout le monde, mais je vois des mines qui s'allongent, des gens penchés sur leur iPhone avec le front plissé, les sourcils froncés. Je veux dire, il avait raison, le petit Alan, de vouloir secouer tout ça et rendre la gaieté à ces gens qui ne l'ont plus.
Et c'est un film qui fait du bien, en effet, qu'on devrait revoir davantage. Ça passe pas souvent, la télé, si ?
Non, ça passe pas, mais parce que le film, il est, passez-moi l'expression, mais il est vraiment le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Il est pour tout le monde, oui. À mon sens. Mais les parents se sont dit, on ne va pas emmener nos enfants voir un film qui s'appelle Le Magasin des Suicides. Oui. Bah, non. Et puis les parents, les grandes personnes, les adultes, s'ils n'ont pas l'alibi enfantin, ne vont pas aller voir un film d'animation. Enfin, c'était un film pour tout le monde et à l'arrivée, c'était un film pour personne. Ça n'a pas été un
gros... C'est un film, en tout cas, que l'on conseille, le Magasin des Suicides, d'après Jean Tellet. C'était en 2012. Merci Patrice Lecomte. Merci à vous trois, Marie-Noëlle Tranchant, Bernard Medioni et Dominique Borde. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Malpeuch, François Dieudonné, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec vous, Patrice Lecomte, et avec vous trois. Et nous nous quittons sur la musique de La Fille sur le Pont. Un chef-d'œuvre.
Chanté par Marianne Faithfull, tout de même.
Merci Bernard. We'll take your dreams away. Takes your soul.